George Sand, Le château des désertes. Chapitre 1, La jeune mère. Avant d'arriver à l'époque de ma vie qui fait le sujet de ce récit, je dois dire en trois mots qui je suis. Je suis le fils d'un pauvre ténor italien et d'une belle dame française. Mon père se nommait Aldo Soavi. Je ne nommerai point ma mère. Je ne fus jamais avoué par elle, ce qui ne l'empêcha point d'être bonne et généreuse pour moi. Je dirai seulement que je fus élevé dans la maison de la marquise de, à Turin et à Paris, sous un nom de fantaisie. La marquise aimait les artistes sans aimer les arts. Elle n'y entendait rien et prenait un égal plaisir à entendre une valse de Strauss et une fugue de Bach. En peinture, elle avait un faible pour les étoffes vert et or, et elle ne pouvait souffrir une toile mal encadrée. Légère et charmante, elle dansait à 40 ans comme une sylphide, et fumait des cigarettes de contrebande avec une grâce que je n'ai vue qu'à elle. Elle n'avait aucun remords d'avoir cédé à quelques entraînements de jeunesse, et ne s'en cachait point trop, mais elle eut trouvé de mauvais goût de les afficher. Elle eut de son mari un fils, que je ne nommai jamais mon frère, mais qui est toujours pour moi un bon camarade et un aimable ami. Je fus élevé comme il plut à Dieu. L'argent n'y fut pas épargné. La marquise était riche, et pourvu qu'elle n'eût à prendre aucun souci de mes aptitudes et de mes progrès, elle se faisait un devoir de me refuser aucun moyen de développement. Si elle n'eût été en réalité que ma parente éloignée et ma bienfaitrice, comme elle l'était officiellement, j'aurais été le plus heureux et le plus reconnaissant des orphelins. Mais les femmes de chambre avaient eu trop de part à ma première éducation pour que j'ignorasse le secret de ma naissance. Dès que je pus sortir de leurs mains, je m'efforçais d'oublier la douleur et l'effroi que leur indiscrétion m'avait causé. Ma mère me permit de voir le monde à ses côtés, et je reconnus à la frivolité bienveillante de son caractère, au peu de soin mental qu'elle prenait de son fils légitime, que je n'avais aucun sujet de me plaindre. Je ne conservais donc point d'amertume contre elle, je n'en eus jamais le droit, mais une sorte de mélancolie, jointe à beaucoup de patience, de tolérance extérieure et de résolution intime, se trouva être au fond de mon esprit, de bonne heure et pour toujours. J'éprouvais parfois un violent désir d'aimer et d'embrasser ma mère. Elle m'accordait un sourire en passant, une caresse à la dérobée. Elle me consultait sur le choix de ses bijoux et de ses chevaux. Elle me félicitait d'avoir du goût, donnait des éloges à mes instincts de savoir-vivre et ne me gronda pas une seule fois en sa vie. Mais jamais aussi elle ne comprit mon besoin d'expansion avec elle. Le seul mot maternel qui lui échappa fut pour me demander un jour qu'elle s'aperçut de ma tristesse, si j'étais jaloux de son fils et si je ne me trouvais pas aussi bien traité que l'enfant de la maison. Or, comme, sauf le plaisir très creux d'avoir un nom et le bonheur très faux d'avoir dans le monde une position toute faite pour l'oisiveté, mon frère n'était effectivement pas mieux traité que moi, je compris une fois pour toutes, dans un âge encore assez tendre, que tout sentiment d'envie et de dépit serait de ma part ingratitude et lâcheté. Je reconnus que ma mère m'aimait autant qu'elle pouvait aimer, plus peut-être qu'elle n'aimait mon frère, car j'étais l'enfant de l'amour et ma figure lui plaisait plus que la ressemblance de son héritier avec son mari. Je m'attachai donc à lui complaire, en prenant mieux que lui les leçons qu'elle payait pour nous deux, avec une égale libéralité, une égale insouciance. Un beau jour, elle s'aperçut que j'avais profité, que j'étais capable de me tirer d'affaire dans la vie. « Et mon fils, dit-elle avec un sourire, il risque fort d'être ignorant et paresseux, n'est-ce pas ?» Puis elle ajouta naïvement, « Voyez comme c'est heureux que ces deux enfants aient compris chacun sa position. » Elle m'embrassa au front et tout fut dit. Mon frère ne essuya aucun reproche de sa part. Sans s'en douter, et grâce à ses instincts débonnaires, elle avait détruit entre nous tout le vin d'émulation, et l'on conçoit qu'entre un fils légitime et un bâtard, l'émulation a pu se changer fort aisément en aversion et en jalousie. Je travaillais donc pour mon propre compte, et je pus me livrer sans anxiété et sans amour-propre maladif au plaisir que je trouvais naturellement à m'instruire. Entouré d'artistes et de gens du monde, mon choix se vit tout aussi naturellement. Je me sentais artiste, et si j'eusse été maltraité par ceux qui ne l'étaient pas, je me serais élancé dans la carrière avec une sorte d'âpreté chagrine et hautaine. Mais il n'en fut rien. Tous les amis de ma mère m'encourageaient de leur bienveillance, et moi, ne me sentant blessé nulle part, j'entrai dans la voie qui me parut la mienne, avec le calme et la sérénité d'une âme qui prend librement possession de son domaine. Je portais dans l'étude de la peinture toutes les facultés qui étaient en moi, sans fièvre, sans irritation, sans impatience. À 25 ans seulement, je me sentis arrivé au premier degré de développement de ma force, et je n'eus pas lieu de regretter mes tâtonnements. Ma mère n'était plus. Elle m'avait oublié dans son testament, mais elle était morte en me faisant écrire un billet fort gracieux pour me féliciter de mes premiers succès et en donnant une signature à son banquier pour payer les premières dettes de mon frère. Elle avait fait autant pour moi que pour lui, puisqu'elle nous avait mis tous les deux à même de devenir des hommes. J'étais arrivé au but le premier. Je ne dépendais plus que de mon courage et de mon intelligence. Mon frère dépendait de sa fortune et de ses habitudes. Mais je n'eusse pas changé son sort contre le mien. Depuis quelques années, je ne voyais plus ma mère que rarement. Je lui écrivais à d'assez longs intervalles. Il m'en coûtait de l'appeler, conformément à ses prescriptions, ma bonne protectrice. Ses lettres ne me causaient qu'une joie mélancolique, car elles ne contenaient guère que des questions de détails matériels et des offres d'argent relativement à mon travail. « Il me semble, écrivait-elle, qu'il y a quelque temps que vous ne m'avez rien demandé. Je vous supplie de ne point faire de dette, puisque ma bourse est toujours à votre disposition. Traitez-moi toujours en ceci comme votre véritable ami. » Cela était bon et généreux, sans doute, mais cela me blessait chaque fois davantage. Elle ne remarquait pas que, depuis plusieurs années, je ne lui coûtais plus rien, tout en ne faisant point de dette. Quand je l'eus perdu, ce que je regrettais le plus, ce fut l'espérance que j'avais vaguement nourrie qu'elle m'aimerait un jour, ce qui me fit verser des larmes. Ce fut la pensée que j'aurais pu l'aimer passionnément si elle l'eût bien voulu. Enfin, je pleurais de ne pouvoir pleurer vraiment ma mère. Tout ce que je viens de raconter n'a aucun rapport avec l'épisode de ma vie que je vais retracer. Il ne se trouvera aucun lien entre le souvenir de ma première jeunesse et les aventures qui en ont rempli la seconde période. J'aurais donc pu me dispenser de cette exposition, mais il m'a semblé pourtant qu'elle était nécessaire. Un narrateur est un être passif qui ennuie quand il ne rapporte pas les faits qui le touchent à sa propre individualité bien constatée. J'ai toujours détesté les histoires qui procèdent par je. Et si je ne raconte pas ma mienne à la troisième personne, c'est que je me sens capable de rendre compte de moi-même et d'être, sinon le héros principal, du moins un personnage actif dans les événements dont j'évoque le souvenir. J'intitule ce petit drame du nom d'un lieu où ma vie s'est révélée et dénouée. Mon nom, à moi, c'est-à-dire le nom qu'on m'a choisi en naissant, est Adorno Salentini. Je ne sais pas pourquoi je ne me serais pas appelé Soavi comme mon père. Peut-être que ce n'était pas non plus son nom. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il mourut sans savoir que j'existais. Ma mère, aussi vite épouvantée qu'éprise, lui avait caché les conséquences de leur liaison pour pouvoir la rompre plus entièrement. Pour toutes les causes qui précèdent, me voyant et me sentant doublement orphelin dans la vie, j'étais tout accoutumé à ne compter que sur moi-même. J'ai pris des habitudes de discrétion et de réserve en raison des instincts de courage et de fierté que je cultivais en moi avec soin. 2 ans après la mort de ma mère, c'est-à-dire à 27 ans, j'étais déjà fort et libre au gré de mon ambition, car je gagnais un peu d'argent et j'avais très peu de besoins. J'arrivais à une certaine réputation sans avoir eu trop de protecteurs, à un certain talent sans trop craindre ni rechercher les conseils de personne, à une certaine satisfaction intérieure, car je me trouvais sur la route d'un progrès assuré et je voyais assez clair dans mon avenir d'artiste. Tout ce qui me manquait encore, je le sentais couvert en silence dans mon sein, et j'en attendais l'éclosion avec une joie secrète qui me soutenait et une apparence de calme qui m'empêchait d'avoir des ennemis. Personne encore ne représentait pour moi un rival bien terrible. Et moi, je ne me sentais pas des rivaux funestes. Aucune gloire officielle ne me faisait peur. Je souriais intérieurement de voir des hommes plus inquiets et plus pressés que moi s'enivrer d'un succès précaire. Doux et facile à vivre, je pouvais constater en moi une force de patience dont je savais bien être incapable des natures violentes emportées autour de moi comme des feuilles par le vent d'orage. Enfin, j'offrais à l'œil de celui qui voit tout ce que je cachais au regard dangereux et trouble des hommes, le contraste d'un tempérament paisible avec une imagination vive et une volonté prompte. À 27 ans, je n'avais pas encore aimé, et certes, ce n'était pas faute d'amour dans le sang et dans la tête, mais mon cœur ne s'était jamais donné. Je le reconnaissais si bien que je rougissais d'un plaisir comme d'une faiblesse, et que je me reprochais presque ce qu'un autre eût appelé ses bonnes fortunes. Pourquoi mon cœur se refusait-il à partager l'enivrement de ma jeunesse? Je l'ignore. Il n'est point d'homme qui puisse se définir au point de n'être pas, sous quelque rapport, un mystère pour lui-même. Je ne puis donc m'expliquer ma froideur intérieure que par indiction. Peut-être ma volonté était-elle trop tendue vers le progrès dans mon art. Peut-être étais-je trop fier pour me livrer avant d'avoir le droit d'être compris. Peut-être encore, et il me semble que je retrouve cette émotion dans mes vagues souvenirs, peut-être avais-je dans l'âme un idéal de femme que je ne croyais pas encore digne de posséder et pour lesquelles je voulais me conserver pur de tout servage. Cependant, mon temps approchait. À mesure que la manifestation de ma vie me devenait plus facile dans la peinture, l'explosion de ma puissance cachée se préparait dans mon sein par une inquiétude croissante. À Vienne, pendant un rude hiver, Je connus la duchesse de noble italienne, belle comme un camé antique, éblouissante femme du monde et dilettante à tous les degrés de l'art. Le hasard lui fit voir une peinture de moi. Elle l'a compris mieux que toutes les personnes qui entouraient. Elle s'exprima sur mon compte en des termes qui caressèrent mon amour-propre. Je sus qu'elle me plaçait plus haut que ne faisait encore le public et qu'elle travaillait à ma gloire sans me connaître par pur amour de l'art. J'en fus flatté. La reconnaissance vint attendrir l'orgueil dans mon sein. Je désirais lui être présenté. Je fus accueilli mieux encore que je ne m'y attendais. Ma figure et mon langage parurent lui plaire, et elle me dit, presque à la première entrevue, qu'en moi, l'homme était encore supérieur au peintre. Je me sentis plus ému par sa grâce, son élégance et sa beauté, que je n'avais encore été auprès d'aucune femme. Une seule chose me chagrinait, certaines habitudes de mollesse, certaines locutions d'éloges officiels, certaines formules de sympathie et d'encouragement me rappelaient la douce, libérale et insoucieuse femme dont j'avais été le fils et le protégé. Parfois, j'essayais de me persuader que c'était une raison de plus pour moi de m'attacher à elle, mais parfois aussi, je tremblais de retrouver sous cette enveloppe charmante la femme du monde, cet être banal et froid, habile dans l'art des niaiseries, maladroit dans les choses sérieuses, généreux de fait sans lettre d'intention, aimant à faire le bonheur d'autrui à la condition de ne pas compromettre le sien. J'aimais, je doutais, je souffrais. Elle n'avait pas une réputation d'austérité bien établie, quoique ses faiblesses n'eussent jamais fait scandale. J'avais tout lieu d'espérer un délicieux caprice de sa part. Cela ne m'enivrait pas. Je n'étais plus assez enfant pour me glorifier d'inspirer un caprice, et j'étais assez homme pour aspirer à être l'objet d'une passion. Je brûlais d'un feu mystérieux trop longtemps comprimé pour ne pas m'avouer que j'allais être en proie moi-même à une passion énergique. Mais lorsque je me sentais sur le point d'y céder, j'étais épouvanté de l'idée que j'allais donner tout pour recevoir peu, peut-être rien. J'avais peur, non pas précisément de devenir dans le monde une dupe de plus, qu'importe quand l'erreur est douce et profonde, mais peur d'user mon âme, ma force morale, l'avenir de mon talent, dans une lutte pleine d'angoisse et de mécompte. Je pourrais dire que j'avais peur enfin de n'être pas complètement dupe, et que je me méfiais du retour de ma clairvoyance prête à m'échapper. Un soir, nous allâmes ensemble au théâtre. Il y avait plusieurs jours que je ne l'avais vue. Elle avait été malade, enfin du moins sa porte avait été fermée, et ses traits étaient légèrement altérés. Elle m'avait envoyé une place dans sa loge pour assister avec moi et un autre de ses amis, espèce de Sigisbée insignifiant, au début d'un jeune homme dans un opéra italien. J'avais travaillé avec beaucoup d'ardeur, avec une sorte de dépit fiévreux, durant la maladie feinte ou réelle de la duchesse. Je n'étais pas sorti de mon atelier, je n'avais vu personne, je n'étais plus au courant des nouvelles de la ville. « Qui donc débute ce soir ?» lui demandai-je un instant avant l'ouverture. « Quoi, vous ne le savez pas ?» me dit-elle avec un sourire caressant, qui semblait me remercier de mon indifférence à tout ce qui n'était pas elle. Puis elle reprit d'un air d'indifférence. « Oh, c'est un tout jeune homme, mais dont on espère beaucoup. Il porte un nom célèbre au théâtre. Il s'appelle Celio Fiorani. » « Est-il parent ?» demandai-je d'un célèbre Lucrezia Floriani, qui est morte il y a 2 ou 3 ans. Son propre fils, répondit la duchesse, un garçon de 24 ans, beau comme sa mère et intelligent comme elle. Je trouvais cet éloge trop complet. L'instinct jaloux se développait en moi à mon gré. La duchesse hâtait trop d'admirer les jeunes talents. J'oubliais d'être reconnaissant pour mon propre compte. « Vous le connaissez ?» lui dis-je avec d'autant plus de calme que je ne me sentais plus ému. « Oui, je le connais un peu, » répondit-elle en dépliant son éventail. « Je l'ai entendu 2 fois depuis qu'il est ici. » Je ne répondis rien. Je fis faire un détour à la conversation pour obtenir par surprise l'aveu que je redoutais. Et au bout de 5 minutes de propos oiseux en apparence, j'appris que la duchesse avait entendu chanter 2 fois dans son salon le jeune Celio Floriani pendant que la porte m'était fermée, car ce débutant n'était arrivé à Vienne que depuis 5 jours. Je renfermai ma colère, mais elle fut devinée, et la duchesse s'en tira aussi bien que possible. Je n'étais pas encore assez lié avec elle pour avoir le droit d'attendre une justification. Elle daigna me la donner, assez satisfaisante, et mon amertume fit place à la reconnaissance. Elle avait beaucoup connu la fameuse Floriani et vu son fils adolescent auprès d'elle. Il était venu naturellement la saluer à son arrivée, et croyant lui devoir aide et protection, elle avait consenti à le recevoir et à l'entendre, quoique malade et séquestrée. Il avait chanté pour elle devant son médecin, elle l'avait écouté par ordonnance de médecin. Ben, je ne sais si c'est que je m'ennuyais d'être seul, ajouta-t-elle d'un ton languissant, ou si mes nerfs étaient détendus par le régime, mais il est certain qu'il m'a fait plaisir et que j'ai bien auguré de son début. Oh, il a une voix magnifique, une belle méthode et un extérieur extra agréable, mais que sera-t-il sur la scène? C'est si différent d'entendre un virtuose à huis clos. Je crains pour ce pauvre enfant l'épreuve terrible du public. Le nom qu'il porte est un rude fardeau à soutenir. On attend beaucoup de lui. Noblesse oblige. C'est une cruauté, madame, dit le marquis R, qui se tenait au fond de la loge. Le public est bête. Il devrait savoir que les personnes de génie ne mettent au monde que des enfants bêtes. C'est une loi de nature. J'aime à croire que vous vous trompez, ou que la nature ne se trompe pas toujours si sottement, répondit la duchesse d'un air narquois. Votre fille est une personne charmante et pleine d'esprit. Puis, comme pour atténuer l'effet désagréable que pouvait produire sur moi cette répartie un peu vive, elle me dit tout bas, derrière son éventail, « J'ai choisi le marquis pour être avec nous ce soir, parce qu'il est le plus bête de tous mes amis. » Je savais que le marquis s'endormait toujours au lever du rideau. Je me sentis heureux et tout disposé à la bienveillance pour le débutant. « Et quelle voix a-t-il » demandai-je. « Qui, le marquis ? » reprit-elle en riant. « Non, 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 votre protégé. » « Primo basso cantante. Oh, il se risque dans un rôle bien fort ce soir. Allez, tenez, on commence. Il entre en scène. Oh, voyez, pauvre enfant, comme il doit trembler. » Elle agita son éventail. Quelques claques saluèrent l'entrée de Celio. Et il joignit si vivement le faible bruit de ses petites mains que son éventail tomba. « Allons, » me dit-elle comme je le ramassais, « applaudissez aussi le nom de la Floriani. C'est un grand nom en Italie, et nous autres Italiens, nous devons le soutenir. Cette femme a été une de nos gloires. » « Je l'ai entendue dans mon enfance, » répondis-je, « mais C'est donc depuis qu'elle était retirée du théâtre que vous l'avez particulièrement connue. Car vous êtes trop jeune. Ce n'était pas le moment de faire une circonlocution pour apprendre si la duchesse avait vu la fleur Rani une fois ou 20 fois en sa vie. J'ai su plus tard qu'elle ne l'avait jamais vue que de sa loge et que ces lieux lui avaient été simplement recommandés par le comte Albani. Oh, j'ai su bien d'autres choses. Mais Célio débitait son récitatif et la duchesse toussait trop pour me répondre. Elle avait été si enrhumée. Chapitre 2. Le ver luisant. Il y avait alors au théâtre impérial une chanteuse qui eût fait quelque impression sur moi. Si la duchesse de ne se fût emparée plus victorieusement de mes pensées. Cette chanteuse n'était ni de la première beauté, ni de la première jeunesse, ni du premier ordre de talent. Elle se nommait Cecilia Boccaferri. Elle avait une trentaine d'années, les traits un peu fatigués, une jolie taille, de la distinction. Une voix plutôt douce et sympathique que puissante, elle remplissait sans fracas d'engouement, comme sans contestation de la part du public, l'emploi de seconda donna. Sans m'éblouir, elle m'avait plu, hors de la scène, plus que sur les planches. Je la rencontrais quelquefois chez un professeur de chant qui était mon ami et qui avait été son maître. Et dans quelques salons où elle allait chanter avec les premiers sujets. Elle avait, disait-on, fort sagement, et faisait vivre son frère, vieux artiste paresseux et désordonné. C'était une personne modeste et calme, que l'on accueillait avec égard, mais dont on s'occupait fort peu dans le monde. Elle entra en même temps que Celio. Et bien qu'elle ne s'occupât jamais du public lorsqu'elle était à son rôle, elle tourna les yeux vers la loge d'avant-scène où j'étais avec la duchesse. Il y eut dans ce regard furtif et rapide quelque chose qui me frappa. J'étais disposé à tout remarquer et à tout commenter ce soir-là. Celio Fiorani était un garçon de 24 à 25 ans. D'une beauté accomplie. On disait qu'il était tout le portrait de sa mère, qui avait été la plus belle femme de son temps. Il était grand, sans l'être trop, svelte, sans être grêle. Ses membres dégagés avaient de l'élégance, sa poitrine large et pleine annonçait la force. La tête était petite comme celle d'une belle statue antique. Les traits d'une pureté délicate avec une expression vive et une couleur solide. L'œil noir étincelant, les cheveux épais, ondés et plantés au front par la nature, selon toutes les règles de l'art italien. Le nez était droit, la narine nette et mobile, le sourcil pur comme un trait de pinceau, la bouche vermeille et bien découpée. La moustache fine et encadrant la lèvre supérieure par un mouvement de frisure naturelle d'une grâce coquette. Les plans de la joue sans défaut, l'oreille petite, le cou dégagé, rond, blanc et fort, la main bien faite, le pied de même, les dents éblouissantes, le sourire malin, le regard très hardi. Enfin, je regardais la duchesse. Et je la regardais d'autant mieux qu'elle n'y fit point d'attention tant elle était absorbée par l'entrée du débutant. La voix de Celio était magnifique et il savait chanter, cela se jugeait dès les premières mesures. Sa beauté ne pouvait pas lui nuire pourtant. Lorsque je reportais mes regards de la duchesse à l'acteur, ce dernier me parut insupportable. Je crus d'abord que c'était prévention de jaloux. Je me moquais de moi-même. Je l'applaudis, je l'encourageais dans de ses bravos à demi-voix, que l'acteur entend fort bien sur la scène. Et là, je rencontrai encore le regard de Mademoiselle Boccaferri, attaché sur la duchesse et sur moi. Cette préoccupation n'était pas dans ses habitudes, car elle avait un maintien éminemment grave et un talent spécialement consciencieux. Mais j'avais beau faire le dégager. D'une part, je voyais la duchesse en proie à un trouble inconcevable, à une émotion qu'elle ne pouvait plus me cacher. On eût dit qu'elle ne l'essayait même pas. D'autre part, je voyais le Bocellio, en dépit de son audace et de ses moyens, s'acheminer vers une de ces chutes dont on ne se relève guère, ou tout au moins vers un de ces fiascos qui laissent après eux des années de découragement et d'impuissance. En effet, ce jeune homme se présenta avec un aplomb qui frisait l'outrecuidance. On eût dit que le nom qu'il portait était écrit par lui sur son front pour être salué et adoré, sans examen de son individualité. On eût dit aussi que sa beauté devait faire baisser les yeux, même aux hommes. Il avait cependant du talent et une puissance incontestable. Il le jouait pas mal et il chantait bien. Mais il était insolent dans l'âme et cela perçait par tous ses pores. La manière dont il accueillit les premiers applaudissements déplut au public. Dans son salut et dans son regard, on lisait clairement cette modeste allocution intérieure. « Tant d'imbéciles que vous êtes, oh, vous serez bientôt forcé de m'applaudir davantage. Je méprise le faible tribut de votre indulgence. » J'ai droit à des transports d'admiration. Pendant deux actes, il se maintint à cette hauteur dédaigneuse, et le public, incertain, lui pardonna généreusement son orgueil, voulant voir s'il le justifierait, et si cet orgueil était un droit légitime ou une prétention impertinente. Mais je l'aurais su dire moi-même lequel c'était, car je l'écoutais avec un désintéressement amer. Je ne pouvais plus douter de l'engouement de ma compagne pour lui, et je le lui disais, même assez malhonnêtement, sans la fâcher, sans la distraire. Elle n'attendait qu'un moment d'éclatant triomphe de Celio pour me dire que j'étais un fat et qu'elle n'avait jamais pensé à moi. Ce moment de triomphe sur lequel tous deux comptaient, c'était un duc du troisième acte avec la signora Boccaferri. Cette sage créature semblait s'y prêter de bonne grâce et vouloir s'effacer derrière le succès du débutant. Celio s'était ménagé jusque-là. Il arrivait à un effet avec la certitude de le produire. Mais que se passa-t-il tout d'un coup entre le public et lui? Nul ne l'eût expliqué, mais chacun le sentit. Il était là, lui, comme un magnétiseur qui essaye de prendre possession de son sujet et qui ne se rebute pas de la lenteur de son action. Le public était comme le patient, à la fois naïf et sceptique, qui attend de ressentir ou de secouer le charme pour se dire « Oh, celui-ci est un prophète ou un charlatan !» Celio ne chanta pourtant pas mal, la voix ne lui manqua pas, mais il voulut peut-être aider son effet par un jeu trop accusé. Eut-il un geste faux, une intonation douteuse, une attitude ridicule? Je n'en sais rien. Je regardais la duchesse prête à s'évanouir, lorsqu'un froid sinistre plana sur toutes les têtes, un sourire sépulcral effleura tous les visages. L'air fini, quelques amis essayèrent d'applaudir, deux ou trois chut discrets, contre lesquels personne n'osa protester, firent tout entrer dans le silence. Le fiasco était consommé. La duchesse était pâle comme la mort. mais je vus l'affaire d'un instant. Reprenant l'empire d'elle-même avec une merveilleuse dextérité, elle se tourna vers moi et me dit en souriant, en affrontant mon regard, comme si rien n'était changé entre nous, « Allons, c'est 3 ans d'études qu'il faut encore à ce chanteur-là. Oh, le théâtre est un autre lieu d'épreuve que l'auditoire bienveillant de la vie privée. J'aurais pourtant cru qu'il s'en serait mieux tiré. Pauvre Floriani, comme il eût souffert si cela se fût passé de son vivant. Mais qu'avez-vous donc, monsieur Salentini? On dirait que vous avez pris tant d'intérêt à ce début que vous vous sentez consterné de la chute. Oh, je n'y songeais pas, madame, répondis-je. Je regardais, j'écoutais mademoiselle Boccaferri, qui vient de dire admirablement bien une toute petite phrase fort simple. Ah bah, vous écoutez la Boccaferri, vous. Moi, je ne lui fais pas tant d'honneur. Je n'ai jamais su ce qu'elle disait, mal ou bien. Je ne vous crois pas, madame. Vous êtes trop bonne musicienne et trop artiste pour n'avoir pas 1000 fois remarqué qu'elle chante comme un ange. Rien que cela. Mais à qui en avez-vous, Salentini? Est-ce vraiment de la Boccaferri que vous me parlez? J'ai mal entendu, sans doute. Vous avez fort bien entendu, madame. Cecilia Boccaferri est une personne accomplie et une artiste du plus grand mérite. C'est votre doute à cet égard qui m'étonne. Oui, vous êtes facétieux aujourd'hui, reprit la duchesse sans se déconcerter. Elle était charmée de me supposer du dépit. Elle était loin de croire que je fusse parfaitement calme et détaché d'elle ou au moment de l'être. Non, madame, non, non, repris-je, je ne plaisante pas. J'ai toujours fait grand cas des talents qui se respectent et qui se tiennent, sans aigreur, sans dégoût et sans folle ambition, à la place que le jugement public leur assigne. La signora Boccaferri est un de ces talents purs et modestes qui n'ont pas besoin de bruit et de couronne pour se maintenir dans la bonne voie. Son organe manque d'éclat, mais son chant ne manque jamais d'ampleur. Ce timbre un peu voilé, un charme qui me pénètre. Beaucoup de prime donne et, fort en vogue, n'ont pas plus de plénitude ou de fraîcheur dans le gosier. Il en est même qui n'en ont plus du tout. Elles appellent alors à leur aide l'artifice au lieu de l'art, c'est-à-dire le mensonge. Elles se créent une voix factice, une méthode personnelle qui consiste à sauver toutes les parties défectueuses de leur registre pour ne faire valoir que certaines notes criées, chevrotées, sanglotées, étouffées qu'elles ont à leur service. Cette méthode, prétendue dramatique et savante, n'est qu'un misérable tour de gypsière, un escamotage maladroit, une fourberie dont les ignorants sont seuls dupes. Mais à coup sûr, ce n'est plus là du chant, ce n'est plus de la musique. Que deviennent l'intention du maître, le sens de la mélodie, le génie du rôle? Lorsqu'au lieu d'une déclamation naturelle et qui n'est vraisemblable et pathétique qu'à la condition d'avoir des nuances alternatives de calme et de passion, d'abattement et d'emportement, la cantatrice, incapable de rien dire et de rien chanter, crie, soupire et larmoie son rôle d'un bout à l'autre. D'ailleurs, quelle couleur, quelle physionomie, quel sens peut avoir un chant écrit pour la voix, quand à la place d'une voix humaine et vivante, le virtuose épuisé met un cri, un grincement, une suffocation perpétuelle. Autant vous chantez Mozart avec la pratique de Pulcinella, sur la langue, et autant vous assister au hurlement de l'épilepsie. Ce n'est pas davantage de l'art, c'est de la réalité plus positive. « Bravo, monsieur le peintre, » dit la duchesse, avec un sourire malin et caressant. « Oh, je ne vous savais pas si docte et si subtil en fait de musique. Pourquoi est-ce la première fois que vous parlez si bien de cela? Oh, j'aurais toujours été de votre avis, en théorie. Car vous faites une mauvaise application en ce moment. La pauvre Boccaferri a précisément une de ces voix usées, flétries, qui ne peuvent plus chanter. Et pourtant, repris-je avec fermeté, elle chante toujours. Elle ne fait que chanter. Elle ne crie et ne suffoque jamais. Et c'est pour cela que le public frivole ne fait point d'attention à elle. Croyez-vous qu'elle soit si peu habile qu'elle ne pût viser à l'effet tout comme une autre et remplacer l'art par l'artifice si elle daignait abaisser son âme et sa science jusque-là? Que demain elle se lasse de passer inaperçue et qu'elle veuille agir sur la fibre nerveuse de son auditoire par des cris, elle éclipsera ses rivales, je n'en doute pas. Son organe voilé d'habitude est précisément de ceux qui s'éclaircissent par un effort physique et qui vibrent puissamment quand le chanteur veut sacrifier le charme à l'étonnement, la vérité à l'effet. Mais alors, convenez-en vous-même, que lui reste-t-il si elle n'a ni le courage ni la volonté de produire l'effet par un certain artifice, ni la santé de l'organe qui possède le charme naturel? Elle n'agit ni sur l'imagination trompée, ni sur l'oreille satisfaite, cette pauvre fille. Elle dit proprement ce qui est écrit dans son rôle. Elle ne choque jamais, elle ne dérange rien. Elle est musicienne, j'en conviens, et utile dans l'ensemble, mais seule, elle est nulle. Qu'elle entre, qu'elle sorte, le théâtre est toujours vide quand elle le traverse de ses bouts de rôle et de ses petites phrases perlées. Voilà ce que je nie, et pour mon compte, je sens qu'elle remplit non pas seulement le théâtre de sa présence, mais qu'elle pénètre et anime l'opéra de son intelligence. Je nie également que le défaut de plénitude de son organe en exclut le charme. D'abord, ce n'est pas une voix malade, c'est une voix délicate. De même que la beauté de Mademoiselle Boccaferri n'est pas une beauté flétrie, mais une beauté voilée. Cette beauté suave, cette voix douce, ne sont pas faites pour les sens toujours un peu grossiers du public. Mais l'artiste qui les comprend devine des trésors de vérité sous cette expression contenue, où l'âme tient bien plus encore qu'elle ne promet, et ne s'épuise jamais parce qu'elle ne se prodigue point. Oh, mille et mille fois pardon, mon cher Salentini, s'écria la duchesse en riant et en me tendant la main d'un air enjoué et affectueux. Je ne vous savais pas amoureux de la Boccaferri. Si je m'en étais douté, je ne vous aurais pas contrarié en disant du mal d'elle. Vous ne m'en voulez pas. Vrai, je n'en savais rien. Je regardais attentivement la duchesse. Qu'elle eût été sincère dans son désintéressement, je redevenais amoureux, mais elle ne put soutenir mon regard, et l'étincelle diabolique jaillit du sien la dérobée. Madame, lui dis-je, sans baiser sa main que je pressais faiblement, vous n'aurez jamais à vous excuser d'une maladresse. Et moi, je n'ai jamais été amoureux de Mademoiselle Boccaferri avant cette représentation, où je viens de la comprendre pour la première fois. Et c'est moi qui vous ai aidé sans doute à faire cette découverte. Non, madame, c'est Celio Floriani. La duchesse frémit, et je continuais fort tranquillement. Oui, c'est en voyant combien ce jeune homme avait peu de conscience que j'ai senti le prix de la conscience dans l'art lyrique, aussi clairement que je le sens dans l'art de la peinture et dans tous les arts. Expliquez-moi cela, dit la duchesse, affectant de reprendre parti pour Celio. Moi, je n'ai pas voulu qu'il manquât de conscience, ce beau jeune homme. Il a manqué de bonheur, voilà tout. Mais il a manqué à ce qu'il y a de plus sacré, repris-je froidement. Il a manqué à l'amour et au respect de son art. Il a mérité que le public l'en punit, quoique le public ait rarement de ces instincts de justice et de fierté. Consolez-vous pourtant, madame, son succès n'a tenu qu'à un fil, et en procédant par l'audace et le contentement de soi-même, un artiste peut toujours être applaudi, faire des dupes, voire des victimes. Mais moi, qui vois très clair et qui suis tout à fait impartial dans la question, j'ai compris que l'absence de charme et de puissance de ce jeune homme tenait à sa vanité, à son besoin d'être admiré, à son peu d'amour pour l'œuvre qu'il chantait, à son manque de respect pour l'esprit et les traditions de son rôle. Il s'est nourri toute sa vie, j'en suis sûr, de l'idée qu'il ne pouvait faillir et qu'il avait le don de s'imposer. Probablement c'est un enfant gâté. Il est joli, intelligent, gracieux. Sa mère a dû être son esclave et toutes les dames qu'il fréquente doivent l'enivrer de volupté. Celle de la louange est la plus mortelle de toutes. Aussi s'est-il présenté devant le public comme une coquette effrontée qui éclabousse le pauvre monde du haut de son équipage. Personne n'a pu nier qu'il fût jeune, beau et brillant, mais on s'est mis à le haïr parce qu'on a senti dans son maintien quelque chose de la coquette. Oui, oui, coquette est le mot. Savez-vous ce que c'est qu'une coquette, madame la duchesse ? Non, je ne le sais pas, monsieur Salentini, mais vous, vous le savez sans doute. « Oh, une coquette !» repris-je sans me laisser troubler par son air de dédain. « C'est une femme qui fait par vanité ce que la courtisane fait par cupidité. C'est un être qui fait le fort pour cacher sa faiblesse, qui fait semblant de tout mépriser pour secouer le poids du mépris public, qui essaie d'écraser la foule pour faire oublier qu'elle s'abaisse et rampe devant chacun en particulier. » C'est un mélange d'audace et de lâcheté, de bravade téméraire et de terreur secrète. Ah, Dieu ne plaise que j'applique ce portrait dans toute sa rigueur à aucune personne de votre connaissance. Non, à Celio même, je ne le ferai pas sans restriction. Mais je dis que la plupart des artistes qui cherchent le succès sans conscience et sans recueillement sont un peu dans la voie de la courtisane sans le savoir. Ils feignent de mépriser le jugement d'autrui et ils n'ont travaillé toute leur vie qu'à l'obtenir favorable. Ils ne sont si irrités de manquer leur triomphe que parce que le triomphe a été leur unique mobile. S'ils aimaient leur art pour lui-même, ils seraient plus calmes et ne feraient pas dépendre leur progrès d'un peu plus ou moins de blâme ou d'éloge. Les courtisanes affectent de mépriser la vertu qu'elles envient, et les artistes dont je parle affectent de se suffire à eux-mêmes, précisément parce qu'ils se sentent mal avec eux-mêmes. Celio Florani est le fils d'une vraie, d'une grande artiste. Il n'a pas voulu suivre les traditions de sa mère. Il en est trop cruellement puni. Dieu veuille qu'il profite de la leçon, qu'il ne se laisse point abattre et qu'il se remette à l'étude sans dégoût et sans colère. Voulez-vous que j'aille le trouver de votre part, madame, et que je l'invite à souper chez vous au sortir du spectacle? Il doit avoir besoin de consolation, et ce serait généreux à vous de le traiter d'autant mieux qu'il est plus malheureux. Nous voici au finale. Je vais entrer sur le théâtre. Allez, j'y vais, je vous l'amène. « Non, Salentini, répondit la duchesse. Non, je ne comptais point souper ce soir, et si vous voulez prolonger la veillée, vous allez venir prendre du thé avec moi et le marquis, dont la somnolence opiniâtre nous laisse le champ libre pour causer. Il me semble que nous avons beaucoup de choses à nous dire à propos de Celio Florani précisément. Celui-ci serait de trop dans notre entretien. » Pour moi comme pour vous. » Elle accompagna ces paroles d'un regard plein de langueur et de passion et se leva pour prendre mon bras, mais j'esquivai cet honneur en me plaçant derrière son sigisbée. Cette femme, qui n'aimait les jeunes talents que dans la prévision du succès, et qui les abandonnait si lestement quand ils avaient échoué en public, me devenait odieuse tout d'un coup. Elle me faisait l'effet de ces enfants méchants et stupides qui poursuivent le ver luisant dans les herbes, qui le saisissent, le réchauffent et l'admirent tant que le phosphore l'illumine, puis l'écrasent quand le toucher de leurs mains indiscrètes l'a privé de sa lumière. Parfois ils le torturent pour le ranimer, mais le pauvre insecte s'éteint de plus en plus. Alors on le tue. Il ne jette plus d'éclat, il ne brille plus, il n'est plus bon à rien. Pauvre Celio, pensais-je, qu'as-tu fait de ton phosphore? Rentre dans la terre ou crains qu'on ne marche sur toi. Mais à coup sûr, c'est pas moi qui profiterai du tête-à-tête qu'on t'avait ménagé pour cette nuit en cas d'ovation. J'ai encore un peu de phosphore, et je veux le garder. Eh bien, dit la duchesse d'un ton impérieux, vous ne venez pas? Pardon, madame, répondis-je, je veux aller saluer mademoiselle Brocaferri dans sa loge. Elle n'a pas eu plus de succès ce soir que les autres fois, et elle n'en chantera pas moins bien demain. J'aime beaucoup à apporter le tribut de mon admiration aux talents ignorés ou méconnus qui restent d'eux-mêmes et se consolent de l'indifférence de la foule par la sympathie de leurs amis et la conscience de leur force. Si je rencontre Celio Fiorani, je veux faire connaissance avec lui. Me permettez-vous de me recommander de votre seigneurie? Nous sommes tous deux vos protégés. La duchesse brisa son éventail et sortit sans me répondre. Je sentis que sa souffrance me faisait mal, mais c'était le dernier tressaillement de mon cœur pour elle. Je m'élançai dans les couloirs qui menaient au théâtre, résolu, en effet, à porter mon hommage à Cecilia Boccaferri.